Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal.
Allô, moi c'est Isabelle Hébert et je suis médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur.
C'est bizarre comme on travaille ensemble à la même place, mais ça paraît pas quand on le dit. Hein?
On dit des choses différentes.
Ouf, comment ça va?
Mais ça va bien?
Bon,
Et
on
toi?
est... ça va, on est juste les deux aujourd'hui.
Ben oui.
L'été, hein? Ça appelle beaucoup de congés.
Ben, chacun notre tour. Il y a juste toi qui ne prends pas
ouais,
congé de Pharmascope.
J'étais pour dire chacun notre tour, mon tour, il vient pas souvent. Aïe, 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 aïe. Fait que, épisode à deux.
Ben
Petit
oui.
club de lecture.
Oui.
Dans la légèreté, je pense qu'on peut dire.
Ouais. On reste sur le... Tu sais, c'est un beat été, là, quand même.
Exact, exact. Fait que, sans plus tarder, passer avec une nouvelle étude. Intéressante, quand même. Étude sur la gestion de l'hypertension résistante. C'est pas passé grand-chose de neuf, quand même, ces derniers temps, dans la gestion de l'hypertension résistante. En tout cas, du moins, du côté traitement pharmaco, je dirais. Là, il y a d'autres interventions plus exotiques là, qui ont été mises au point. Mais, tu sais, je pense que c'était assez clair. Puis même, on a fait le mois Pioli, quand tu étais dans ton tour de congé, l'épisode sur les guides de pratique canadiens mis à jour en hypertension. Puis, tu sais, l'algorithme était assez... straightforward, en bon français, hein, c'était la trithérapie de base, donc un ISCA ou une ARA, un BCC, comme de l'amlodipine, et un diurétique. Puis dans l'algorithme, d'emblée, dans le guide de pratique, le quatrième choix, dans la mesure où ce n'était pas suffisant, c'était de la spironolactone.
Oui.
Ça, c'est quand même un consensus qui est présent depuis longtemps, suite à différentes études randomisées contrôlées, probablement la plus grosse, l'étude Pathway 2, là, qui avait démontré la supériorité de la spironolactone dans ce contexte-là, par rapport à des bêta-bloquants ou des alpha-bloquants. Puis là, ben, y a du monde, pour une raison quelconque, qui ont décidé de voir si on pouvait faire différemment, puis voir si on pouvait faire mieux. Puis ils ont décidé de ressortir, ma foi, un médicament des boulamites, l'amyloride. Pas, mettons, Isa, la dernière fois que tu as prescrit de l'amyloride, tu dirais que c'est...
Jamais!
Voilà! C'est parce que tu es tellement jeune.
Merci, merci, ça me fait du bien entendre ça.
Aïe, 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 aïe. Fait que, ouais, nouvelle étude pour voir la pertinence ou l'utilité de l'amyloride en hypertension résistante. Une étude qui vient de Corée du Sud, qui a été publiée dans le JAMA en mai 2025 par Lee et collaborateurs. Puis où on nous dit, en fait, qu'ils ont décidé de tester l'amyloride pour différentes raisons. La première, dans l'étude Pathway, en fait, que je viens de mentionner, là, qui date d'un petit bout de temps, je n'étais même pas au courant, il y avait une étude apparemment run-out. On ne voit pas ça souvent, des études run-out. On connaît les études run-in, mais run-out. Fait qu'après le bras là, ou l'étape randomisée contrôlée, spironolactone, bêta-bloquant, alpha-bloquant, tout ça, il y avait une phase où on permettait aux gens, dans une phase ouverte, d'essayer l'amyloride pour leur hypertension résistante. Puis apparemment, dans cette sous-analyse-là, quelque part, on a démontré une diminution moyenne de la tension artérielle systolique de 20 mm de mercure, ce qui était pas mal dans les mêmes chiffres de ce que la spironolactone avait causé. On nous parle aussi de l'intolérance possible à la spironolactone. Puis oui, c'est vrai, on le sait, en pratique, ça peut arriver. On a des enjeux notamment de potassium, le fameux enjeu de gynécomastie, qui n'est pas très fréquent, mais qui arrive. Là, on en voit en pratique, j'imagine que tu en as déjà vu toi aussi, Zan.
Ouais.
C'est pas atypique là, ou excessivement rare.
C'est très dérangeant, là.
On en entend parler assez vite, là.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que c'est comme ça qui justifie l'idée, bref, d'aller tester l'amyloride. Fait que pour les jeunes comme toi, ils ont l'amyloride, un diurétique. Un diurétique, là, puis va être honnête, là, pour moi aussi, là, c'est un peu vieux comme médicament. Mais c'est un diurétique anticalurétique, donc épargneur de potassium, par opposition là, au diurétique thiazidique ou au diurétique là, de l'anse et compagnie. Fait que c'est un mécanisme d'action différent. Fait ce qu'on a fait, on a pris des patients de 19 à 75 ans qui avaient un diagnostic d'hypertension résistante, ce qui était défini par la présence d'une tension artérielle systolique d'au moins 130 mm de mercure malgré la prise de la fameuse triple thérapie. Donc, je répète, ISCA, ARA, BCC, diurétique. Fait que, définition relativement standard. Là, ça varie un peu les définitions dans la littérature, dépendamment d'où on regarde. Notamment, il y a des distinctions des fois entre hypertension résistante et hypertension réfractaire, qui, elle, là, impliquerait dans certaines définitions 5 médicaments antihypertenseurs et non 3. Généralement, dans l'hypertension résistante, au-delà du 3, on inclut obligatoirement la présence d'un diurétique. Puis on parle aussi dans certaines définitions de dose optimale ou maximale tolérée, ce genre d'affaires-là. Mais bref, on est dans ce domaine-là, très certainement. On a pris ces gens-là, on les a randomisés à soit de l'amyloride, 5 à 10 mg par jour, ou de la spironolactone, 12,5 à 25 mg par jour. Fait qu'en gros, ben, on commençait avec la petite dose chez la majorité des gens, puis on pouvait ajuster en cours d'étude selon la tension artérielle systolique. Puis on a regardé ben, ce qui se passait sur 12 semaines. À noter qu'on fait un run-in ici, non run-out, donc un run-in. Un peu particulier, peut-être, je ne sais pas. Ils voulaient standardiser quelque chose, là. Fait qu'ils ont pris les patients qui correspondaient à leurs critères d'inclusion. Puis là, ben, ils leur ont tous passé leur traitement antihypertenseur à une triple thérapie fixe, standard pour tout le monde. Fait que c'était une triple thérapie d'amlodipine, d'olmesartan et d'hydrochlorothiazide. Puis à noter que, je viens de le dire, il y a des définitions d'hypertension résistante bon, qui varient, mais qui impliquent la triple thérapie à des hautes doses, puis tout ça. Ici, l'hydrochlorothiazide, c'était 12,5 mg.
OK.
Il me semble pas une grosse dose, là, mais
Non.
c'était comme ça. Fait qu'ils ont mis là-dessus là, avant de les randomiser à de l'amyloride ou de la spironolactone.
Fait qu'ils ont mis tout le monde sur le même traitement.
Ouais.
Quand même intéressant.
Il y a quelque chose qui se défend dans l'idée, là. Je suis
Ben
pas.
oui, parce que sinon tu compares pas des pommes avec des pommes, mais des pommes avec des oranges. Fait que là, ils se sont dit, on va tout le monde sur les mêmes molécules.
Exact. Donc,
Mais
118 participants. En moyenne, des jeunes de 55 ans, 70% des hommes, avec une tension artérielle moyenne à domicile à 142. Puis au bout du compte, à 12 semaines, on a noté une diminution moyenne de la tension artérielle systolique à la maison avec l'amyloride de 14 mm de mercure contre 15 mm de mercure avec la spironolactone, ce qui est évidemment la même affaire. Puis dans les faits ici, c'était une étude de non-infériorité. Ils ont donc démontré la dite non-infériorité de l'amyloride par rapport à la spironolactone. Ils ont regardé aussi des issues dichotomiques, là. Fait que par exemple, la quantité de gens qui avaient atteint leur cible de pression artérielle systolique là, en bas de 130. Là, je ne sais pas pourquoi je ne la vois plus. Ah oui, ici. Puis ça donnait là, dans le groupe amyloride, on était à 66% des gens contre 55% des gens dans le groupe spironolactone. Ça peut paraître différent, mais à 118 participants, en fait, ça fait pas beaucoup de différence. Là. Au bout du compte, on n'a pas d'analyse statistique là, ici significative. Il y a une petite nuance quand même aussi là, quand on regarde la quantité de gens qui ont été chercher les doses doublées. Là, fait que je vous disais, on passait de 5 à 10 ou 12,5 à 25. Plus de gens sont passés là, à la dose de 25 mg de spironolactone que de gens qui sont passés à la dose de 10 mg d'amyloride. Fait que 48% contre 31%. Fait que même si on a travaillé comme plus fort, si on veut, que la spironolactone, ben, on n'a pas réussi à faire mieux. Fait que l'amyloride s'en est bien sorti. Évidemment, on parle ici de chiffre de pression, hein. Ça, je pense que c'est un point important à se rappeler. Quand on parle d'hypertension résistante, donc quand on a dépassé notre fameuse triple thérapie de base en hypertension, on traite des chiffres. On n'a pas d'études qui nous montrent des issues cliniques orientées vers les patients, des diminutions de complications cardiovasculaires ou rénales ou je ne sais quoi, là. Fait que, on est dans le marqueur intermédiaire, clairement, ici. Sinon, en termes de tolérance, ben, on n'a pas des gros chiffres. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais tu sais, 118 participants au total. Si on regarde les effets secondaires qui ont mené à des arrêts de traitement, on a 3 patients dans le groupe amyloride, 1 patient dans le groupe spironolactone. Clairement pas un nombre suffisant là, pour tirer des conclusions claires là-dessus. Quand on regarde la kaliémie, fait que, ici, on. Peut-être une tendance à plus d'hyperkaliémie dans le groupe amyloride. Encore une fois, des petits chiffres. Là, mettons, à la semaine 12, on avait 8 participants qui ont obtenu une kaliémie de 5 ou plus dans le groupe amyloride contre 4 participants dans le groupe spironolactone. J'imagine que ça va tout dans le même sens un peu. On a un effet sur la pression qui est au moins aussi important, un effet sur le potassium qui est au moins aussi important. Par contre, on n'a pas eu de gynécomastie là, dans le groupe amyloride. Remarquez bien, on n'en a pas eu non plus dans le groupe spironolactone. Mais on peut imaginer. La gynécomastie, c'est pas quelque chose de rapporté là, à ma connaissance avec l'amyloride. C'est pas censé faire ça. Ça n'a pas d'effet anti-androgénique là, ou genre d'affaire là. Mais bon. 58 patients sous spironolactone pendant 12 semaines, ça l'a donné pas de gynécomastie. Fait que au bout du compte, l'amyloride à laquelle on pensait pas, là, je pense personne là, dans le traitement de l'hypertension résistante. En tout cas, pas moi.
Non, non, non.
Une option, clairement, ça ne se démarque pas de la spironolactone. Clairement, le risque d'hyperkaliémie est au moins le même. Je vois pas de raison de me mettre à sauter sur de l'amylorite du jour au lendemain, hein, comme quatrième agent d'hypertension du tout. Mais mettons, si on pense à des patients nichés qui tolèrent pas la spironolactone, ben ça peut nous faire une option supplémentaire, très certainement.
Très intéressant.
À vous, Madame Hébert.
Bon, c'est mon tour. Alors, moi, je vais parler de pédiatrie, long dans les troncs et de gastro-entérite. C'est ça, parce qu'on se demande si c'est utile d'utiliser cette molécule-là en partant de l'urgence. C'est ça qu'on se pose comme question. Donc, un article du New England Journal of Medicine de juillet 2025, donc très récent, par Friedman et collaborateurs, une étude canadienne, Nico.
Absolument.
Le chercheur principal était à Calgary, mais on a six centres d'urgence pédiatrique qui ont participé au Canada, dont le CHU Sainte-Justine. Et puis là, ben, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on l'ondansetron, c'est utilisé dans les urgences, dans les cas de gastro-entérite virale pour justement limiter les vomissements de ces petits cocos qui viennent et qui font donc bien pitié. Et l'usage du médicament après le congé de l'hôpital, ça fait pas trop consensus, là, selon les études. C'est pas si clair que ça aide de prendre cette molécule après à la maison. Des fois, ça a été démontré qu'il y avait plus de diarrhée, plus de visites subséquentes. Fait que finalement, il y en a une autre qui montrait qu'il y avait moins de vomissements, mais pas vraiment de différence sur les visites subséquentes. Puis là, finalement, c'était un peu incertain tout ça, mais il y avait quand même une pratique assez répandue qui était de prescrire de l'ondansetron pour l'usage à la maison. Fait que cette étude vise à vérifier est-ce que c'est utile ou pas de faire ça.
Ben, la question me paraît tout à fait pertinente, là.
Ben oui, tout à fait. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des enfants âgés entre 6 mois jusqu'à moins de 18 ans, donc 17 ans, qui avait une gastro-entérite virale depuis moins de 72 heures, qui présentait trois vomissements ou plus dans les dernières 24 heures, qui avait au moins un vomissement dans les dernières 6 heures et qui ont consulté à l'urgence et qui ont reçu une dose d'ondansetron à l'urgence. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné aux parents jusqu'à 6 doses d'ondansetron en solution orale à amener à la maison. Et ils ont comparé avec un placebo qui avait la même couleur, odeur, goût, consistance, tout ça, que la solution d'ondansetron.
Ouais, il semble avoir fait là, la job au complet, là, visiblement, là.
Oui. Et puis là, ben, ce qu'ils ont regardé, c'est combien d'enfants allaient avoir des critères qui correspondent à une gastro-entérite modérée à sévère, à partir d'un score qui s'appelle le score de Vézicari, qui est une échelle sur 20 où on donne des notes de 0 à 3 pour différents éléments comme la durée de la diarrhée, le nombre de diarrhées, la durée des vomissements, le nombre de vomissements par 24 heures. Puis là, ben, à la fin, ça donne une note sur 20. Et pour avoir une gastro-entérite modérée à sévère, ça prenait un score de 9 ou plus. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les soignants, parce qu'on dit jusqu'à 6 doses, les soignants, ils recevaient l'instruction de donner des doses au besoin si les vomissements persistaient après le retour à la maison. Puis là, ils pouvaient donner maximum aux 8 heures. Il y avait 6 doses maximum qu'ils pouvaient donner, puis il y avait les instructions de jeter la préparation après 48 heures.
Fait qu'en gros, là, si je résume, on a des enfants qui ont une gastro depuis pas longtemps, qui vomissent activement, qui sont assez mal en point, on imagine, pour se ramasser dans une urgence, hein, quand même, parce que je veux dire, je pense que la majorité des enfants qui ont une gastro se ramassent pas à l'urgence, là. Fait qu'on parle d'enfants probablement quand même assez mal en point, qu'on traite là-bas avec de l'ondansetron. On imagine que c'est des enfants, après ça, qui sont assez bien pour avoir congé. Sinon, il faudrait les garder. Puis là, on leur a donné soit un placebo, soit de l'ondansetron, 6 doses à prendre au besoin. C'est important, je pense, de le rappeler. C'était vraiment s'il y avait des vomissements qui réapparaissaient. Puis on leur laissait ça pour utilisation pendant 2 jours. Fait que la question, je l'ai dit tantôt, mais je pense que la question est super pertinente. Fait qu'on aurait l'idée de dire, ben, si on donne un anti-nauséeux, un anti-vomissement efficace, ben, est-ce que ça permettrait de justement limiter les revisites à l'urgence ou les consultations dans un autre contexte ou les complications? Puis là, ben, eux, ils ont décidé d'utiliser un score qui inclut un peu tout ça, hein, parce que dans les éléments du score que tu as mentionné, il y a des trucs comme les vomissements, les diarrhées, mais aussi les consultations non prévues dans un contexte de soins, les hospitalisations et compagnie, là.
Oui. Puis juste un petit point, là, si un enfant devait être hospitalisé, il pouvait quand même participer à l'étude avec des doses subséquentes.
Qu'il prenait à ce moment-là dans l'hôpital?
Ouais.
OK.
Puis pour les suivis, là, il y avait des suivis à 24 heures, 48 heures et 7 jours qui étaient faits soit de manière électronique ou au téléphone. Fait que c'est sûr qu'il peut avoir peut-être un petit biais de rappel là, si on passe de 48 heures à 7 jours, là, mais bon.
En même temps, ton enfant qui vomit, ça
On
laisse des
s'en rappelle
traces.
assez bien.
Ouais,
On s'en
ça.
rappelle assez bien. Et oui, c'est ça. C'est assez marquant là, dans la mémoire, là. Donc, on parle de résultats. Alors, ils ont recruté 1030 participants,
Tabarouette, ils ont vraiment.
517, ben quand même, hein? 517 dans le groupe On en sait trop, 512 dans le groupe placebo. L'âge médian était de 4 ans. Des enfants qui faisaient en moyenne 16 kilos. 50% étaient des filles. Sinon, ils vomissaient ces pauvres enfants depuis une médiane de 13 à 14 heures. 5 à 12 vomissements dans les dernières 24 heures avec une médiane de 8. 32% avaient aussi de la diarrhée. Il y a 8% qui ont dû recevoir d'hydratation IV, 1% qui sont restés hospitalisés. Et 87% des participants ont complété tous les questionnaires. Fait que c'est quand même assez bon, je pense.
Ben honnêtement, en tout cas, chapeau à date en termes d'envergure, de méthodologie, de tout ça.
Ouais. Il y a un petit élément sur quoi ils mettent pas beaucoup de l'accent dans leur publication, mais c'est le nombre de doses reçues. Fait qu'il y a quand même plusieurs enfants qui ont eu besoin d'aucune dose, comme plus que la moitié, là. 57% dans le groupe on en sait trop, 59% dans le groupe placebo ont reçu aucune dose à la maison ou durant le SPIT. Fait que c'est sûr que ça va venir influencer un peu les résultats, là, parce que finalement, ça a bien fonctionné, la dose qu'ils ont reçue à l'hôpital, on suppose.
Ouais, ben ça a bien fonctionné ou juste l'évolution naturelle de la maladie qui était favorable, là, on imagine, là.
Ouais.
Fait que c'est une bonne nouvelle pour les enfants, évidemment, qu'il y a une grande quantité qui n'ont pas revomi par la suite, mais une mauvaise nouvelle pour l'aspect puissance statistique, là.
Ouais, c'est ça, exactement. Parce que finalement, il n'y a pas tant d'enfants qui l'ont pris. Il y a quand même environ 10% qui ont dû recevoir 3 doses ou plus. Un petit peu plus dans le groupe placebo que dans le groupe ondansetron-là. 11% contre 8%. Donc, si on regarde notre tissu primaire, qui était une gastro modérée à sévère selon les critères qu'on a discutés tantôt, 5,1% des participants ont rempli les critères dans le groupe ondansetron contre 12,5% dans le groupe placebo pour un NNT à 15.
OK, fait significativement moins d'enfants qui se sont ramassés avec un score élevé, ce qu'on qualifierait comme une gastroentérite là. Plus
Modéré à
importante,
sévère.
mais on se rappelle ce qu'il y avait dedans, dans le fond, c'est soit de la diarrhée, des vomissements, des consultations médicales, grosso modo, là.
Exactement. Ensuite, ils avaient regardé plein de tissus secondaires, là. Ils ont regardé la présence, la durée, le nombre de vomissements dans les premières 48 heures, des visites médicales non planifiées dans les 7 jours suivants, les recours aux solutés intraveineux, les effets indésirables. Grosso modo, il n'y a pas grand-chose qui est sorti positif de ça, là. La seule issue qui avait une différence significative, c'était le nombre de vomissements dans les 48 heures avec un risque relatif ajusté à 0,76. Donc, un peu moins d'épisodes dans le groupe ondansetron. Mais toutes les autres issues montrent un léger avantage vers l'ondansetron, mais qui n'était pas significatif. C'est sûr que le fait qu'il y a eu peu d'événements, peu de vomissements, c'est-à-dire que la plupart des enfants ont arrêté de vomir ou après leur congé de l'urgence, ben c'est sûr que ça aide pas à avoir des issues qui deviennent significatives parce qu'on manque de puissance.
Ben, c'est l'idée, c'est que si tout le monde va bien, ça va être bien difficile de démontrer qu'un médicament est utile.
C'est en plein ça.
Fait du sens.
Sinon, si on regarde un peu les effets indésirables, ben c'était quand même similaire, là. Il y avait 7% d'effets indésirables rapportés dans les deux groupes. On se questionne parfois là, par rapport à la diarrhée là, qui serait plus présente possiblement dans le groupe ondansetron, mais c'était similaire dans les deux groupes. Un petit peu plus fréquent là, chez les enfants qui ont reçu 3 doses ou plus. Mais c'était comme ça dans les deux groupes.
Okay.
Fait que en pratique, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, moi, je me disais, ça supporte peut-être l'utilisation, mais plus l'utilisation dans la salle d'urgence, dans le sens où, oui, c'est possible que l'évolution naturelle fasse que au moment où les enfants arrivent à l'urgence, l'infection se calme et que ça va mieux. Mais c'est quand même des enfants qui étaient beaucoup malades puis qui arrêtent de vomir après. Fait que c'est une bonne nouvelle que ces enfants-là arrêtaient de vomir puis que presque 60 % d'entre eux n'avaient pas besoin de prendre d'autres doses. Mais c'est ça. Ça fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont eu besoin. Maintenant, si on disait, on donne, tu sais, comme par exemple, dans cette étude-là, là, j'ai fait des petits calculs, là, tu sais, on aime ça, on est économes, nous autres, là. Tu sais, ils ont donné possiblement, là, autour de 5 500 doses, puis il y en a peut-être 13 % de ces doses-là qui ont été utilisées, là, quand je regarde dans les deux groupes, là. C'est sûr que ça fait beaucoup de gaspillage, là.
Comprends, comprends. Ça fait beaucoup de gaspillage en même temps. Ben là, tu sais, c'est une analyse qu'on fera pas là maintenant, mais de l'autre côté, tu sais, si tu sauves juste, mettons, je sais pas quoi, mais une hospite ou même à la limite, tu sais, quelques visites à l'urgence. En tout cas, c'est un calcul qui est pas évident, là.
Ah oui, puis on s'en parlait, tu sais, comme parents, sauver juste un vomissement d'enfant qui arriverait, mettons, dans l'auto ou dans le lit.
Ouais,
On
à plein
est.
d'autres endroits, là.
Ouais, mais il y a des endroits qui se ramassent moins bien que
C'est
d'autres,
sûr, c'est sûr.
là. Fait que comme parents, c'est sûr que ça nous parle. Puis on dit oui, tu peux empêcher mon enfant de vomir, je vais le prendre, s'il vous plaît.
C'est clair, parce que tu sais, c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on parle de danzétron. Ça fait quand même un bout de temps que ça fait jaser le danzétron dans la gestion de la gastroentérite chez les enfants. Puis un des contre-arguments qu'on entend au Québec, du moins, c'est que c'est un médicament qui n'est pas couvert par la RAMQ. Mais tu sais, en même temps, un comprimé de 4 mg de danzétron, c'est genre 2,5 piastres. Fait que je comprends que ce ne sera pas remboursé, là, parce que les seuls critères de remboursement à la RAMQ, c'est des affaires de chimio, radio, des trucs de même, mais
Ça me
mettons.
paraît peu cher quand même
Ben,
pour
c'est ça.
sauver
Là,
des
après
vies
ça,
de gars,
chaque personne a son propre budget, puis c'est correct, là, mais mettons que.
là.
Mais je suis d'accord avec toi, ce qui est dur avec cette étude-là, on dirait, c'est où qu'on la met finalement dans notre pratique à nous, déjà? Fait que pour les enfants qui présentent une gastro-entérite qui ne sont pas à l'hôpital, est-ce que ça vient donner du poids à l'utilisation de l'ondansétron? Je ne sais pas trop. Il y a des études qui portent plus dans ce contexte-là. Puis traditionnellement, ce qu'on en conclut, c'est que pour les enfants qui sont pas trop mal en point, tu sais, qui réussissent quand même à rester hydratés, puis tout ça, pas si pire, ben, on conseille généralement de ne pas donner aucun antiémétique, là. Par contre, pour les enfants qui ont des symptômes plus sévères puis qui ont des enjeux de réhydratation, ben à ce moment-là, oui, il y a quand même des données qui montrent là, que le danzétron ben, diminue les vomissements, améliore la capacité à se réhydrater puis diminue les besoins en hydratation intraveineuse. Fait que on dirait que je trouve que c'est rassurant par rapport à certaines inquiétudes que les auteurs avaient proposées initialement quand ils ont justifié leur étude, là. Je ne sais pas à quel point ça vient donner du poids à l'idée d'emblée prescrire de l'anzitron à plein d'enfants qu'on voit, nous, en pratique. Je pense que, en tout cas, on manque encore peut-être un peu de recul sur certaines affaires, savoir nos enfants moins mal en point, qui sont à domicile, puis tout ça, c'est quoi le rôle de cette pilule-là. Ambivalent.
Mais tu sais, je reviens au fait que si c'est ton enfant qui vomit,
Puis, tu sais, on s'entend,
ça te parle plus.
dans ma balance risque-bénéfice, les inconvénients d'une ou deux doses de danzétron, mettons. Là, que je vois peu d'inconvénients si ça peut sauver un ou deux vomissements.
C'est ça. C'est exactement ça.
Fait que voilà, mais chapeau quand même, étude canadienne qui s'est ramassée dans le New England, randomisée contrôlée contre placebo, toute la patente. On voit pas ça sans arrêt.
Ben non, c'est vraiment le fun.
Alright. Sinon, bon, on s'était mis quelques mentions particulières. Fait que des études qu'on va voir plus rapidement, là, mais qu'on trouvait chou pour différentes raisons, vous allez comprendre. Fait que la première, l'étude Redefine 1. Une étude où on a décidé d'étudier la combinaison sémaglutide cagrilintide en perte de poids.
Mais qu'est-ce que cagrilintide?
C'est
Cagrilintide?
ça. Fait que c'est là, pour la petite histoire, là, vous connaissez mon amour pour ces affaires-là, mais apparemment, c'est un analogue de l'amyline, une hormone là, qui joue sur la satiété, le poids, la glycémie, puis ces affaires-là. Fait que la cagrilintide, c'est un analogue de ça, puis qui joue sur des récepteurs avec des noms bâtards, là, comme AMI1R, puis des affaires de même. Mais en gros, bref, c'est censé aussi diminuer l'appétit, augmenter le sentiment de satiété et tout le tralala. Puis là, on dirait que, puis là, je fabule complètement. Évidemment, j'ai aucune idée là, dans les faits comment ça s'est passé, mais on dirait que je trouve que c'est coquin. On dirait qu'il y a des gens qui vendent du sémaglutide, qui là ont perdu récemment, on se rappelle, contre d'autres médicaments comme le tirzépatide. Mais là, en même temps, tu tiens une molécule qui t'a quand même amené des revenus phénoménaux, n'est-ce pas? Alors, on en a déjà parlé, c'est documenté, tout ça. Puis là, on dirait que quelqu'un qui s'est dit, ben, on pourrait peut-être essayer de rajouter quelque chose avec notre sémaglutide, ça pourrait peut-être être mieux. C'est
Y a une petite stratégie marketing ici, là.
particulier quand même. Fait que bref, étude Redefine 1 qui a été publiée dans le New England tout récemment. Étude là, standard de médicaments en perte de poids, donc étude randomisée, contrôlée avec un groupe placebo d'un an chez des patients avec un IMC de 30 ou plus ou de 27 ou plus avec une complication. C'est tout le temps un peu le même genre d'étude et le même genre de patients. L'étude, c'était des gens non diabétiques. Là. Ils ont d'autres études en cours qui sont publiées tranquillement pas vite là, chez d'autres genres de populations. Je me suis arrêté à celle-là pour aujourd'hui. Ils ont fait aussi des bras dans cette étude-là. Il y avait quatre bras, là. Il y avait le bras cagrilintide et sémaglutide, qu'ils appellent coquinement le cagrisema. Je ne sais pas si ça va se rendre sur le marché là, avec ce nom-là, mais je trouve ça chou, le cagrisema.
Mais c'est quelque chose qui n'existe pas en ce moment, là.
Non, non, c'est pas disponible sur le marché encore, évidemment.
OK.
C'était du sémaglutide 2,4 mg par semaine, fait que la dose élevée standard dans nos études de perte de poids, puis du cagrilintide, quoi donc? 2,4 mg aussi.
Oh, ben.
C'est coquin, hein? C'est
Ben oui.
pratique, j'imagine, tu peux pas te tromper. Tu vois que 2,4, puis t'es sûr d'y arriver. En même temps, c'est un stylo là, patenté à chambre double, là, à usage unique, là, qui semble être assez simpliste. Grosse étude, 3 417 participants qu'on a suivi pendant un an. Puis qu'est-ce que ça a donné? Ben, quand on regarde la perte de poids moyenne dans le groupe recevant le cagrilintide, on parle d'une perte de poids de 20% par rapport au poids initial. Dans le groupe placebo, une perte de poids de 3% par rapport au poids initial. Puis il y avait des petits bras là, de sémaglutide seul ou de cagrilintide seul qui ont mené à une perte de poids de respectivement 15 et 12%. Et qu'on voit que la combinaison semble avoir fait plus que l'un ou l'autre seul. On voit que le bras sémaglutide seul a mené à une diminution du poids sur un an de 15%, ce qui est le chiffre qu'on voit au bout du compte tout le temps dans les études de sémaglutide. Fait visiblement, ça donnait la même affaire que d'habitude. Le 20% de cagrilintide, ben, ça ressemble beaucoup au chiffre qu'on voit généralement avec le tirzépatide. Fait qu'on semble s'être rapproché de l'effet du tirzépatine. Quand on regarde là, la quantité de gens qui ont perdu 5, 10, 15 et tous ces pourcentages-là de poids, ben, ça va évidemment dans la même tendance avec, par exemple, 70% des gens sous cagrilintide qui ont perdu au moins 15% de leur poids contre 50% des gens sous sémaglutide seul. Encore une fois, là, des chiffres qui ressemblent à ce qu'on a vu dans d'autres études par le passé. Puis quand on regarde la tolérance, peut-être des petites affaires quand même fatigantes, là. Fait qu'évidemment, dans le groupe sémaglutide, toutes des affaires auxquelles on s'attendait. Quand on regarde la combinaison cagrilintide, en tout cas, ça va pas du bon bord, là. Il n'y a pas nécessairement d'analyse statistique claire, là, mais quand on regarde premièrement la quantité de gens qui ont eu des effets indésirables, on en a potentiellement, là, les chiffres sont petits, là, mais potentiellement un petit peu plus avec le cagrilintide. Quand on regarde la quantité, par exemple, d'effets indésirables dits sérieux, ben, on est à 10% avec le cagrilintide contre 5% avec le sémaglutide. Fait que, en tout cas, c'est pas rassurant, je vais le dire de même. Un petit peu plus de gens aussi qui ont abandonné le traitement en raison d'un effet secondaire, 6% dans le cagrilintide contre 4% dans le sémaglutide. Quand on regarde les effets gastro-intestinaux, par exemple, qui étaient assez importants pour mener un abandon aussi un petit peu plus élevé. Fait que, bref, pas de grosses surprises, je dirais. Là, on est dans les mêmes effets secondaires que ce qu'on voit généralement avec nos GLP-1 puis tout ça, mais peut-être un peu plus d'intensité quand on utilise la combinaison cagrilintide. Fait que, à suivre, il y a d'autres études qui sont en cours, qui sont en train d'être publiées avec ce produit-là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver sur le marché. Visiblement, là, toute cette course à la médication de plus en plus efficace pour la perte de poids, c'est loin d'être terminé. Plein d'autres produits qui s'en viennent. Fait que, à suivre pour le cagrilintide.
D'accord.
Sinon, petite mention spéciale, on avait parlé dans le dernier épisode de nouveaux médicaments, puis on avait parlé rapidement du Rebiota,
Ah oui.
ce produit atypique, de lavement intrarectal de microbiote fécal
Ouais.
qui était maintenant approuvé au Canada dans la prévention des C. difficile récidivants.
Exact.
Ça donne comme ça que tout récemment, dans le Annals of Internal Medicine, il y a des gens qui ont publié une étude randomisée contrôlée d'un produit comme ça, là, de lavement de microbiote fécal, dans le traitement d'une primo-infection à C. diff.
Ah ben.
Je me suis dit, coudonc, quelle coïncidence. Fait que rapidement, là, une étude randomisée contrôlée en bonne et due forme, une étude norvégienne non financée par l'industrie. On ne voit pas ça beaucoup des études norvégiennes. Il semble qu'en 163 épisodes, on n'a pas dit ça souvent, une étude
Non,
norvégienne.
je me suis justement fait la même remarque.
Fait qu'en tout cas, si on décidait d'y aller, fait qu'ils ont pris des patients avec une primo-infection de C. difficile, puis ils ont comparé vraiment dans le cadre du traitement de cette infection-là, un lavement de microbiote fécal à un traitement standard de vancomycine, là, 125 mg 4 fois par jour pendant 10 jours. Quand même, un lavement une fois. Tu vas me dire, c'est une expérience qui doit être spéciale, mais c'est un one-shot deal, là.
J'ose comme pas trop imaginer, là, j'ai encore un peu de misère avec ces traitements.
Fait que bref, puis on regardait là, la guérison clinique à 14 jours, fait que c'est-à-dire la disparition, la résolution des diarrhées, puis l'absence de récurrence de maladie à 60 jours. Ils ont inclus, bon, c'est pas une énorme étude, là, ils ont inclus 100 participants qui ont séparé la moitié-moitié. Puis au bout du compte, quand on regarde l'issue primaire, donc à la fois la guérison clinique et l'absence de récurrence à 60 jours, 67 % des gens ont atteint ça en ayant reçu le microbiote fécal, la transplantation de microbiote fécal, contre 61 % des gens ayant reçu la vancomycine, donc pas de différence ici. Fait que même dans le traitement aigu de la primo-infection assez difficile, le lavement à base de microbiote fécal semble être intéressant. Fait que ça sera à suivre, là. Je ne sais pas s'il y a des études en cours avec le produit qui est approuvé au Canada, là, si ça s'en vient, mais ça deviendra peut-être une nouvelle option prochainement pour nos patients récidifs.
Ouais, reste à voir si ça va lever comme option intéressante ou si ça va rebuter les gens. Mais il faut comme laisser tomber certaines
On sent que t'as
préjugés.
une petite frilosité mentale quand même, hein? L'idée de.
Une frilosité mentale, ça décrit bien, ça décrit bien. Ouais, c'est ça, une frilosité mentale sur les
Aïe, aïe, aïe.
traitements de selles d'inconnus par lavement. Quoique
Puis.
les traitements de selles de personnes connues, c'est pas mieux.
Ouais, bon point, bon point, bon point. Sinon, en terminant, dernière petite mention spéciale, je ne peux pas passer à côté, là. Il y a une étude qui a fait le BMJ sur les patates.
Bon. Tu n'as pas regardé pour l'épisode de Gala de la fin d'année?
Ben, on pourra voir si elle se démarque dans une catégorie rendue là, mais tu sais, on est quand même juste au mois d'août. Tu réussis à faire le BMJ, là, quand même. On parle d'une des plus grosses revues médicales sur la planète Terre avec des patates. Ça, je trouve ça
Et
fantastique.
c'est pas celui de Noël, parce
Non,
qu'on voit des choses
exact.
farfelues là, dans le
Exact,
temps des
là.
fêtes, mais là, non, non.
Le vrai.
En plein été.
Fait que, étude avec méta-analyse sur l'association entre la consommation de patates et le risque de développer un diabète de type 2. Ouh. On a inclus trois études de cohorte pour un total de 205 000 et des pinottes participants, pour un total de plus de 5 millions de personnes années de suivi. Et au bout du compte, pour chaque trois portions de patates supplémentaires par semaine, on a noté une augmentation du risque de diabète de type 2 de 5 %.
Wow.
C'est ça, je sais pas quoi faire. Je vais te le dire, j'ai aucune idée quoi faire avec ce chef-là. Tu dis que tu faut t'arrêter de manger des patates ou garde-toi dans patates. Ça dépend à quel point t'aimes les patates, j'imagine. À noter qu'ils ont fait des sous-analyses sur le type de patates consommées. Et devinez quoi? Le problème, c'est les patates frites. Fait que quand on regardait juste les trois portions de patates frites par semaine, on arrivait à une augmentation du risque de diabète type 2 de 20 %. Alors que si on regardait les patates bouillies, les patates pilées, les patates cuites au four, puis toutes ces affaires-là là, qui goûtent pas grand-chose,
Ça goûte pas grand-chose. Moi, je trouve ça rassurant.
c'était ici inoffensif sur le risque de diabète.
Inoffensif. Ben, c'est une bonne nouvelle quand même.
Moi, j'aime bien gros ça, les patates frites, va te le dire, là.
Ouais. C'est
Puis,
pas mon truc, moi.
ben, tu fais bien, tu vois.
Fait que, mettons que t'en manges, à chaque fois que t'en manges trois portions, ça augmente ton risque de 5 %.
Oh, ben là, attention, là, ici, là, hein, on est dans des
Grosse
méta-analyses d'études
portion de patates
observationnelles, là. Là,
supplémentaires.
on peut penser à plein de raisons pourquoi les gens qui mangent plus de patates frites ont plus de diabète que les gens qui mangent moins de patates frites. Et on peut penser à plein de raisons autres que la dite patate frite. Parce que souvent, la patate frite, elle vient pas
Elle vient
seule,
pas
hein.
seule.
C'est rare. Moi, j'ai honnêtement, je vais te le dire. Moi, j'ai jamais vu personne se commander une patate frite avec un bol d'épinards. Ça arrive pas, là. Fait que le problème est-il dans la patate frite? Est-il dans ce que ton mode de vie de toi qui manges des patates frites plusieurs fois par semaine?
La boisson gazeuse, c'est ça.
On peut penser à
Le
bien des
fait d'être plus
raisons, là.
sédentaire. Il y a
Puis,
bien des d'autres choses, bien d'autres facteurs.
absolument. Mais quand même, je voulais le souligner, la patate, le BMJ, vraiment, chapeau. Très fort. C'est parce que moi, quand je vois ces études-là, ça me remplit de jalousie.
T'aurais aimé ça y penser.
J'aurais aimé ça y penser. Chapeau, la patate frite.
Puis on est rassuré pour les patates bouillies, pilées et cuites au four.
Moi, ma tête honnête avec toi, moi, ça m'arrêtera pas sa patate frite. Tu sais,
Ouais, mais
hein,
toi, tu vis dangereusement
ben,
aussi.
exact, hein, c'est la décision partagée. Après ça, chacun a le droit à son niveau d'acceptation de risque, n'est-ce pas? C'est notre
Tout à fait.
dogme au Pharmascope. Ben, c'est ça, moi, j'ai choisi. La patate frite a gagné. Aïe, 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 aïe. Fait que voilà, ça fait le tour de cet épisode Club de lecture. En terminant, un petit message habituel. Si vous avez plein de questions, des critiques, des commentaires, on vous invite à écrire à Olivier. Autrement, ben, on se reparle bientôt.
Bye!
Ciao!
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.